RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, l'Intégral Tour c'est parti jusqu'à 18h évidemment pour cette deuxième étape du Tour de France entre Saint-Lô et Cherbourg. Nous sommes dans le Cotentin en Normandie où évidemment le temps ne s'est pas beaucoup amélioré depuis que nous sommes arrivés, mais nous dit-on ça devrait s'arranger au fur et à mesure que le Tour va descendre vers le sud de la France. 53 km encore à parcourir et il y a 4 hommes en tête qui possèdent un petit peu moins de 6 minutes d'avance sur le peloton. On va faire un point dans quelques instants, mais vous le savez, aujourd'hui c'est une journée particulière. Toute la France est en attente avant le match de ce soir, le quart de finale de l'Euro entre la France et l'Islande. Le gros va-t-il croquer le petit ou est-ce que ça va être l'inverse? Eh bien, on va poser la question à Pierrick Ten, qui évidemment est un grand spécialiste, mais il est surtout spécialiste de pelouse. Pierrick est avec nous d'habitude sur le Tour de France, mais qui cette année, il a choisi son camp. Il est avec les footballs. Salut Pierrick.
Salut Christophe. Pourquoi être obligé de choisir, Christophe? J'aime les deux, j'aime le foot, j'aime le tour, et vous allez me manquer pendant ces 3 semaines, mais je vous écouterai évidemment pendant mes vacances sur RMC. Alors la pelouse, hein, parce que c'est ce qui intéresse évidemment nos auditeurs aujourd'hui. Ça va mieux pour cette pelouse du Stade de France. Didier Deschamps, qui était venu hier la constater en marge de la conférence de presse, l'a dit lui-même, c'est beaucoup mieux que lors du match d'ouverture. Là, je l'ai sous les yeux, je suis dans les tribunes du Stade de France, et c'est vrai qu'on va pouvoir au moins voir une pelouse correcte aujourd'hui. Derrière les buts, c'est pas terrible, mais au moins pour ce qui est de la pelouse, c'est beaucoup mieux. On est encore loin du billard du Parc des Princes, mais au moins on devrait assister à une rencontre particulièrement agréable de ce niveau-là tout à l'heure à partir de 21h sur RMC.
Bon, ça fait plaisir d'entendre Pierrick Ten dans l'Intégral Tour, et on te retrouvera évidemment l'année prochaine. Allez, on t'embrasse, amuse-toi bien avec ta pelouse et avec tes footeux, et à tout à l'heure, et allez les Bleus évidemment à partir des 18h Intégral Euro 2016 jusqu'à Puceau, jusqu'à 1h du matin, en espérant évidemment la qualification de l'équipe de France. En attendant, nous sommes donc sur le Tour de France pour cette deuxième étape, et on va saluer toute l'équipe, à commencer par notre druide international, Cyril Guimard, qui est remonté sur son arbre. Il n'avait pas vraiment envie d'y aller. Faut dire que là-haut, il fait un petit peu humide. Bonjour, monsieur le druide. Voilà, bah non, évidemment, ça peut pas marcher si on n'appuie pas sur le bouton. Donc on l'appellera tout à l'heure. Je suis sûr que ça marchera. Georges Quirino sur la moto. Là, on prend des paris, les gars. Ça va marcher ou ça va pas marcher?
Ça va marcher.
Ça va marcher. Georges Quirino sur la moto RMC. Eh ben non, il n'est pas là non plus.
J'ai perdu.
Il y a de l'abandon dans le team RMC.
Ouais, non, mais les soirées sont difficiles. Alors, heureusement, il me reste mes deux acolytes. J'ai nommé Jérôme Pinault, qui se trouve à ma droite. Salut Jérôme.
Je suis présent.
Oh, tu es là, et ton micro marche, tout va bien. Ça va Jérôme, en pleine forme?
Très très bien, la grande forme, la très grande forme.
Eh oui, la deuxième étape du Tour de France, on rentre dans le vif du sujet là, hein, évidemment. Et puis Frédéric Adam, vous avez entendu également sa voix, il est là en pleine forme, lui aussi. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Alors, on va en profiter, puisqu'on est seul au monde, messieurs, nous sommes tous les trois. On va faire le premier top course de cette deuxième étape du Tour de France. C'est parti.
RMC Top Course.
Avec 51 km à parcourir sur cette deuxième étape du Tour entre Saint-Lô et Cherbourg. Un final casse-pattes, un final compliqué. Ce ne sera pas le même scénario qu'hier avec un sprint massif. On le rappelle, remporté par Mark Cavendish. Aujourd'hui, finale pour Puncher. 51 km de l'arrivée. Un quatuor de tête ouvre la route depuis le kilomètre zéro, avec dedans un Allemand porteur du maillot à pois, Paul Voss, l'Italien Benedetti, le Belge Jasper Stuyven et le Norvégien Vegard Breen de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Sachez que Stuyven, le Belge de l'équipe Trek, a passé les 3 premières côtes de la journée en tête. Il est virtuellement porteur du maillot à pois. Le peloton est à 5 minutes 50 de ce quatuor de tête.
5,49 d'avance donc pour les 4 hommes de tête qui font de la résistance, Jérôme, hein, qui conserve pas mal d'avance alors que l'on se rapproche quand même 50 km. On dit qu'on perd environ une minute tous les 10 kilomètres lorsque le peloton se met en route.
C'est un peu plus que cela maintenant. C'était le bon vieux théorème de Chapat à l'époque, mais maintenant on perd plutôt une 20, une 30 qu'une minute. Quand le peloton sera lancé, et sans aucun doute il va se lancer d'ici dizaines de kilomètres, l'écart va diminuer grandement à coup sûr. Aujourd'hui on est sur des routes plutôt plates pour le moment, avec une arrivée très technique. Alors le danger pour le peloton de laisser se développer cette échappée-là, c'est que sur le final, qui sera très très tortueux, plutôt technique, on aura intérêt à revenir à une minute et demie, 2 minutes aux 20 km pour pas prendre de risques et ne pas se mettre en danger du côté des équipes coéquipier des favoris du jour qui sont nombreux.
Oui, on parlera évidemment de cette arrivée dans quelques minutes avec la côte de la Glacerie que Fred Adam est allé repérer tout à l'heure, en tous les cas le final, là où c'était un petit peu moins raide, il s'est pas aventuré dans les 14% de pente le plus
c'est trop dur pour Fred.
Dur de la côte, ouais, c'est un peu dur,
c'est trop
ça
dur
fait un
pour
moment
lui.
qu'il a abandonné le vélo. On va retrouver Cyril Guimard, ça y est, il a réussi à appuyer sur le bon bouton, il est avec nous, notre druide. Salut Cyril.
Salut, bonjour.
Bonjour. Bon, Cyril, comme le disait Jérôme, ça semble compromis pour les quatre hommes de tête, mais il faudrait quand même que les équipes en tête de peloton commencent à mettre en route, ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas pour l'instant. Hein.
Oh, ça ne va pas tarder, ne soyez pas impatients. Je pense que les coureurs et les équipes savent à peu près ce qu'ils font. L'important, c'est de revenir, j'ai presque envie de dire, au pied de la dernière ascension sur les quatre hommes de tête. Aujourd'hui, compte tenu des GPS, des oreillettes, on arrive à très bien gérer ce genre d'affaires. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs en règle générale.
Alors on va également prendre des nouvelles de Alberto Contador. On était très inquiets hier après cette chute intervenue après un peu plus de 100 km de course. Alberto Contador, Fred, qui a pris le départ ce matin, mais qui a de nouveau été victime d'une chute en début d'étape, un peu moins grave évidemment que celle d'hier. Mais c'est vrai que tout va mal pour le champion espagnol.
Oui, c'est un tour qui part un peu à l'envers pour le double vainqueur du tour, âgé de 33 ans. Effectivement, hier, il était allé au sol à 80 km de l'arrivée. Aujourd'hui, c'est à 125 km de la ligne ici à Cherbourg que plusieurs coureurs sont allés à terre, dont Warren Barguil, dont Alberto Contador. Mais Contador qui, a priori, ne s'est pas fait mal du tout. On l'a vu même revenir sur les lieux de la chute où il y avait plusieurs coureurs qui était immobilisé, lui avait pu continuer et s'était rendu compte un peu plus loin que son vélo avait été endommagé. On a donc eu cette drôle d'image, Alberto Contador qui fait demi-tour une centaine de mètres après la chute pour revenir au point de chute, là où les voitures de directeur sportif étaient arrêtées pour dépanner les coureurs au sol. Il a changé de vélo, il a été ramené par 5 coéquipiers de la formation Tinkoff. C'est toujours lui, c'est toujours bel et bien lui le leader pour le classement général, mais c'est vrai qu'il va falloir arrêter de tomber Alberto Contador si il veut garder ses chances de bien figurer au classement général. En tout cas, Contador qui ce matin, semble-t-il, et Georges nous le confirmera sur la moto, grimaçait un peu à la sortie du bus.
Eh bien, figure-toi qu'on va aller poser la question à l'intéressé, non pas Alberto Contador directement, mais avec Georges Quirino, puisqu'on a retrouvé la moto RMC. Georges Quirino derrière son fidèle pilote Marco. Bonjour messieurs.
Salut Christophe et bonjour à tous.
Alors Georges, un mot donc d'Alberto Contador. Fred le disait, ce matin il semblait quand même un petit peu mâché. Dans quel état était-il et surtout après cette deuxième chute, est-ce que tu as pu le voir ?
Alors déjà pour commencer ce matin, quand on discutait avec son entourage, c'est le directeur sportif et également Jacinto Villert et son attaché de presse, les nouvelles étaient plutôt rassurantes, on va dire. Il nous disait qu'il allait prendre le départ et puis on l'a vu sortir du bus ensuite à un quart d'heure du départ, Alberto Contador, avec un imperméable gris. Il était visiblement marqué, en tout cas son visage, il ne masquait pas son inquiétude très clairement. Il arrivait ensuite devant nos micros, il nous a confié qu'il avait très peu dormi la nuit dernière et qu'il avait mal en fait un petit peu partout. Hier soir il n'a pas fait de radio parce que visiblement il n'y a rien de cassé. On rappelle qu'il avait tout le côté droit qui avait été éraflé, mais voilà, il nous confie qu'il avait un peu du mal à se mouvoir parfaitement, à fermer son maillot par exemple, qu'il craignait le ravitaillement tout à l'heure et qu'il allait falloir peut-être l'aider. Il craignait surtout que cette journée soit très longue, qu'elle soit très nerveuse comme celle d'hier. Donc on a vraiment vu un Contador inquiet qui a même de lui-même, avant même qu'on lui pose la question, qui nous a dit voilà, si je dois perdre du temps aujourd'hui, il faudrait que j'en perde le moins possible. Donc c'est lui en premier qui a évoqué l'hypothèse de perdre du temps. Et puis donc on l'a vu tout à l'heure là, on s'est laissé doubler par le peloton juste après la chute pour voir où il en était. On a vu son genou gauche qui montrait une plaie. Alors c'était tout le côté droit qui était touché hier, hein. Donc si le genou gauche est touché, peut-être qu'il est tombé de ce côté-là. On a voulu en parler avec Sean Yates, le directeur sportif de l'équipe Tinkoff, qui nous a fait un nom de la main qu'il ne voulait pas parler. Donc ça vous montre peut-être l'état d'esprit général qu'il y a dans cette équipe Tinkoff, qui est vraiment touchée, on va dire, par la malédiction qui touche pour l'instant le pistolero.
Et oui, évidemment, Sean Yates qui a parlé à nos confrères de France Télévisions également il y a quelques minutes. Il a dit qu'il est tombé sur la même épaule qu'hier. Ce n'est pas l'idéal, mais ça a l'air d'aller. On espère que c'est la dernière fois, évidemment. C'est pas très bon pour le moral. On a un peu peur que ça frotte beaucoup avant l'arrivée, mais je ne pense pas qu'il perdra plus que quelques secondes. Voilà donc pour l'état d'Alberto Contador. On va en parler à nouveau dans quelques instants, mais vous le savez, évidemment, ce soir, 21h, France-Islande, nos reporters sont mobilisés un peu partout. C'est le cas de Momo Boivsi, qui se trouve, je crois, avec le frère d'un peut-être futur néo-international. Salut Momo.
Salut Christophe, salut à tous. Avec un frère heureux, un frère qui est le frère d'un joueur de la liste des 23, avec Yannick Umtiti, le frère de Samuel. On imagine que c'est une fierté pour vous, Yannick, d'être ici à Paris pour assister à cette rencontre.
Plus qu'une fierté, c'est d'abord énormément de joie, parce qu'en plus de ça, il se pourrait qu'il y ait une cerise sur le gâteau ce soir avec la titularisation de Samuel. C'est une énorme joie d'être ici, parce que aller regarder le match au Stade de France avec une ambiance de folie, c'est un truc de fou, hein. Excusez-moi, pardonnez-moi le terme, c'est un truc de fou, c'est grâce à Samy qu'on peut le vivre. Et puis bon, nous croisons les doigts pour une première titularisation ce soir.
Yannick, quelle semaine incroyable pour la famille Umtiti. L'officialisation du Barça, peut-être, on l'espère, sans doute, selon nos informations, la titularisation de Samuel. C'est une semaine incroyable.
C'est une semaine incroyable avec beaucoup de bonnes nouvelles qui tombent. Alors moi, on m'a posé la question, est-ce que ça va trop vite pour vous? Comment vous le vivez? J'ai toujours la même réponse, hein. On le vit de manière ultra positive. Nous ne sommes pas des gens qui sont flammes ou qui paniquent pour pas grand chose. L'intérêt du Barça qui se confirme, c'est simplement une récompense, hein, au travail de Samuel. Et puis une première titulation probablement ce soir ne nous surprend pas du tout, parce que nous connaissons le garçon, on sait que c'est un travailleur, et ça ne m'étonne pas qu'il gagne récemment du crédit auprès du sélectionneur.
Dans quel état d'esprit il est là en ce moment, Samuel Umtiti? Vous avez dû lui parler, Yannick, ces dernières heures ou jours, comment il est, hein?
Ouais, il est très calme, très très serein, hein. Nous, on lui a dit, écoute, c'est formidable, hein, c'est génial ce qui t'arrive, il faut que tu profites un max, et c'est génial. Le sélectionneur reconnaît aujourd'hui tes capacités, t'as l'occasion de faire quelque chose de grand, donc donne tout et puis vas-y. Et lui, il est calme mais serein, je suis pas du tout inquiet s'il faut le terrain, s'il faut la pelouse ce soir.
Dernière question, qu'est-ce que vous lui avez dit, Yannick, ces dernières heures? Un petit texto, un petit appel, vous lui avez donné quelques conseils?
Je lui ai dit, allez Big Sam.
C'est son nouveau surnom en équipe de France?
Oui, c'est son nouveau surnom. Bon, on en a discuté un tout petit peu. Ça vient de Patrice. Et puis Mandanda. Bon, je sais pas d'où ça leur est venu, mais bon, on l'adopte volontiers.
Un pronostic pour le match de ce soir, Yannick?
Victoire des Bleus, qualification en demi, avec nos cages en violet, j'espère.
Et un but de Samuel Umtiti?
Et un but de Samuel sur coup de pied arrêté, une tête magnifique en pleine lucarne, ce serait énorme.
Merci beaucoup Yannick. En tout cas, Christophe, il y a une très belle ambiance à Paris. Pourquoi? Parce que toutes les familles et les proches des joueurs se sont rejoints pour aller au Stade de France. Ils vont démarrer vers 18h50, comme les joueurs de l'équipe de France. Tous les proches sont là et ça va être une très très belle ambiance ce soir au Stade de France.
On l'espère évidemment, parce que les supporters islandais, eux aussi, vont faire du bruit. Donc on compte sur les supporters de l'équipe de France. Merci Mohamed, à tout à l'heure évidemment. RMC et tous les reporters mobilisés à 5h maintenant du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Islande. Frédéric Zarmati, lui, est aux courses, évidemment, c'est là où il se trouve tous les jours. Fred, pour le résultat du quintet officiel. Salut Fred.
Oui, salut Christophe. Alors le quintet officiel, c'est 14, 15, 6, 16 et 10. Et il rapporte dans l'ordre pour 2 euros, 266 112 euros. Et puis il y a quelques instants, 3-4 minutes de cela, la troisième étape des Epic Series s'est courue, le Grand Prix de Saint-Cloud. Et je peux te dire que ce n'est pas une arrivée qu'on attendait, puisque les favoris se sont un petit peu noyés dans cette épreuve. Et c'est de neuf, hein, Silver Wave, dont la victoire ne doit rien à personne, qui s'impose à 12 contre 1 pour la grande joie et le bonheur de son entraîneur Pascal Barry, et surtout au passage du poteau de son cavalier Maxime Guyon devant un numéro 10 Erupt complètement retrouvé. Il est vrai que le terrain était plus à son avantage aujourd'hui. Le 11, Stijan Saga prend la troisième place. Je vous invite à noter son nom sur les tablettes parce qu'elle a terminé à la vitesse du vent. Et la quatrième place pour le numéro 8, Manati. On attendait Vazirabad, il a laissé, on attendait One Foot in Even. Elle a déçu également. Donc une arrivée qui est un petit peu surprise, on peut le dire, mais en tout cas une très belle course à laquelle nous avons assisté.
Merci Fred.
Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais.
Et avant de revenir sur la route du Tour pour cette deuxième étape à 42 km de l'arrivée, nous allons franchir à nouveau la Manche, retrouver Eric Salio, parce qu'Eric est en train de vivre un match complètement dingue à Wimbledon entre John Isner et Joe Wilfried Tsonga. John Isner qui est un habitué des matchs marathons, se souvient de ce match face à Mahut il y a quelques années, 70-68, c'est le nombre de jeux que les deux hommes avaient disputé dans la dernière manche. Et ben on est peut-être parti pour un remake, Eric, entre Tsonga et Isner cet après-midi.
Je leur souhaite pas, Christophe, bien sûr.
Et à toi non plus, d'ailleurs.
Oui, à moi non plus, parce que ça mettrait en danger le France Islande, cette histoire. Mais je leur souhaite pas, parce que demain, Richard Gasquet ramasserait un mec à la petite cuillère. Alors, tant mieux, ce serait bien pour Richard Gasquet, mais on leur souhaite pas. On n'en est pas là, hein. 14 jeux partout dans ce cinquième set. Il y avait 0-30 à l'instant sur la mise en jeu de John Isner, mais l'Américain vient de sortir 3 bons coups, donc il a une balle pour faire 15-14, c'est un sacré match marathon, mais on se dit aussi que ce match peut s'achever sur le central cette fois, parce que si jamais ils sont interrompus par la nuit, ils pourront déplacer le match sur le central avec l'éclairage. Donc ça, c'est une bonne chose quelque part pour le tournoi, parce que rappelons qu'il faut absolument finir le troisième tour ici à Wimbledon. Donc 14 partout, Joe qui a la malchance entre guillemets de faire la course derrière à chaque fois, mais il s'accroche et il va tenter de faire le break. Il est à 40 sur la mise en jeu de John Isner.
Pas facile de breaker John Isner, Eric. C'est l'un des hommes les plus difficilement breakables, surtout à Wimbledon, surtout sur le gazon. Hein.
Ouais, là, il a plus de 33 aces, John Isner, depuis le début de cette partie. Il a eu un souci au genou qui lui a causé la perte du quatrième set, une perte express, puisque le Français avait réussi à le breaker à deux reprises, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Il est intraitable. Oh, j'ai cru que j'allais annoncer une balle de break à venir, mais non, le retour de Joe qui sort de quelques centimètres, avantage Isner, donc balle pour faire 15 jeux à 14 dans ce cinquième set.
Merci Eric, on revient vers toi rapidement. Tu nous appelles évidemment dès qu'il y a une petite balle de break, surtout pour Joe Wilfried Tsonga. Évidemment, RMC, il est 16h23, c'est l'heure de retrouver Fred Adam pour le top course.
RMC, top course.
La deuxième étape du Tour 2016 entre Saint-Lô et Cherbourg, 40 km de l'arrivée, on s'approche de cette côte de la glacerie, juge de paix de cette deuxième étape qui devrait occasionner un changement du porteur du maillot jaune, puisqu'il risque d'y avoir des écarts et que Mark Cavendish devrait être hors jeu aujourd'hui. Un quatuor de tête avec 5 minutes d'avance sur un peloton qui commence à réagir et positionner les favoris pour la victoire d'étape à l'avant du peloton. Paul Voss, l'Allemand, l'Italien Benedetti, les deux équipiers de la formation Bora, le Belge Jasper Stuyven de l'équipe Trek et un Norvégien de l'équipe Fortuneo, Vegard Brain. Ces quatre-là comptent 5 minutes d'avance donc sur un peloton qui commence à s'organiser. A priori, la victoire sera pour l'un des coureurs du peloton. On a plusieurs favoris aujourd'hui, on en reparlera dans quelques instants, mais on attend les punchers aujourd'hui ici à Cherbourg-Octeville.
Et pourquoi pas un vainqueur français, on en reparle dans quelques instants avec toute la Dream Team Tour de France. À tout de suite sur RMC. 39 km 800 de l'arrivée, 5 minutes et 3 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de France, deuxième étape de cette grande boucle 2016 entre Saint-Lô et Cherbourg. Nous sommes à un peu moins de 40 km de l'arrivée de cette deuxième étape avec, on vous le rappelle, la même physionomie inchangée depuis quelques heures maintenant, à savoir 4 hommes en tête qui possèdent désormais un petit peu moins de 5 minutes. On va aller faire un tour sur la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve justement à l'avant de la course avec les 4 hommes de tête. Georges, 4 hommes qui continuent d'y croire parce que leur avance continue d'être assez importante à 38 km de l'arrivée. Hein.
Oui, l'avance qui est de 5 minutes pour les 4 coureurs à l'avant. Jesper Stuyven, le Belge de la formation Trek, l'Italien Benedetti, l'Allemand Vos avec son maillot à poids, il est reconnaissable, et le Norvégien Brin. On est vraiment dans le bocage normand, là, on va dire protégé du vent par les haies à gauche et à droite. On a la Manche qui est juste à notre gauche, on peut voir les plages également, donc le décor est absolument somptueux. Les 4 coureurs de tête qui continuent de travailler ensemble et qui ont un avantage toujours assez confortable, mais on va commencer à rentrer peut-être dans le vif du sujet avec des routes qui peuvent être plus sujettes au vent dans quelques instants. La météo qui est toujours un petit peu capricieuse, on a eu un peu de soleil il y a quelques instants, mais là c'est la grisaille à nouveau qui fait son retour et peut-être quelques gouttes de pluie à venir pour le final.
Très bien Georges, pendant qu'on te tient, hein, on va en profiter pour faire la petite carte postale du jour. Allez, c'est parti.
Partout en France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions avec Enedis, l'électricité en réseau.
Alors Georges, les jolis paysages de France sur lesquels t'es-tu arrêté aujourd'hui ?
Sur un site naturel aujourd'hui, un site naturel que l'on peut voir parfois sur notre gauche et qu'on va continuer de voir sur le rivage, ce sont les dunes de Lindberg, partie intégrante du magnifique massif dunaire qui est long de 100 km puisqu'il s'étire de la baie du Mont-Saint-Michel où on est parti hier pour le grand départ et il s'étire jusqu'aux falaises du Cap de la Hague, c'est-à-dire vraiment à la pointe du département de la Manche, tout au nord des dunes qui sont entrecoupées de promontoires rocheux de Petit Havre, donc c'est vraiment un décor somptueux que l'on voit sur cette étape sur notre gauche, que les coureurs peuvent voir, des dunes qui portent donc le nom de l'aviateur Charles Lindbergh qui fut le premier pilote à rallier sans escale et en solitaire New York à Paris. C'était entre le 20 et le 21 mai 1907, il a mis 33h30 à bord du Spirit of St. Louis, qui a été surnommé l'aigle solitaire. Et donc on parle de son nom a été donné à ces dunes parce que la légende raconte eh bien, que justement dans son périple, Charles Lindbergh est passé juste au-dessus de ces dunes et donc c'est pour ça que ces dunes portent son nom aujourd'hui.
Très bien, il est fort en histoire, mais enfin c'est pas 1907, hein, Georges, c'est 1927 je crois.
1927
puisqu'en 1907 il avait 5 ans, donc c'est un peu compliqué de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, mais en tous les cas c'est bien de nous parler de la belle histoire de France et de ces beaux paysages. Georges, on te retrouve évidemment tout à l'heure. Cyril Guimard, toujours dans notre petite tribune commentateur là-haut, on l'a abandonné, il voulait rester avec nous cet après-midi, mais non, on l'a envoyé dans son arbre là-haut. Cyril, 4 minutes 25, ça y est, ça a commencé à accélérer en tête de peloton. Hein.
Oui, comme prévu, pour l'instant, les équipes des favoris aujourd'hui tient bon la barre et pour l'instant font le tempo juste pour aller chercher le plus tard possible les hommes de tête. Ils vont comme hier sans doute jouer au chat et à la souris avec peut-être un peu plus de tension pour certaines équipes.
Ok, Jérôme, alors comment on s'organise maintenant et quelles sont les équipes qui vont s'organiser pour tenter de revenir sur les hommes de tête? C'est pas forcément les mêmes équipes qu'hier. Hier c'était vraiment les équipes des purs sprinteurs. Aujourd'hui la physionomie est un petit peu différente en tête de peloton.
Ouais, tout à fait. On avait hier deux équipes qui étaient vraiment à la barre, l'équipe Etix et l'équipe Lotto Soudal, l'équipe de Marcel Kittel et de André Greipel. Là c'est complètement différent. On a en tête pour le moment deux équipes, alors pas de surprise, Direct Energy, on sait que Brian Coquard a un gros objectif aujourd'hui, c'est de remporter cette étape et pourquoi pas s'emparer du maillot jaune. Et puis on a une petite surprise, l'équipe Yam Cycling qui roule très certainement pour le jeune et talentueux Sondre Holstenger, qui nous a fait une grande démonstration de danse sur le podium l'autre jour à la présentation des équipes, mais qui s'est surtout imposé au Tour de Croatie récemment. C'est le plus jeune coureur du Tour et c'est un coureur qui a un bon punch. Ensuite, pour ce qui est des équipes de favoris, je pense qu'on va vite voir l'équipe BMC, l'équipe Movistar qui va se rapprocher doucement. Et puis Saxo Tinkoff peut-être, mais avec Alberto Contador en piteux état, peut-être que Sagan se débrouillera tout seul aujourd'hui.
Voilà, Peter Sagan, dont Fred Adam a rencontré le papa dans une situation un peu particulière il y a quelques instants.
À l'instant, il y a 2 minutes 30 à la prise d'antenne, effectivement, j'étais en train de passer au point de passage obligé pour tous les garçons à l'urinoir. Vous savez qu'on a cette urinoir mobile qui nous suit de tour en tour et d'étape en étape. Et c'est vrai que je suis tombé sur quelqu'un.
Mais on fait des rencontres là-bas, ouais.
Voilà, quelqu'un d'assez affairé.
Au même endroit, c'est sympa.
J'ai vu que le monsieur était assez concentré, assez sur son affaire, et je me suis dit le gars a un objectif aujourd'hui. Sa tête m'était assez familière, et il s'est avéré que c'était Monsieur Lubomir Sagan, le papa de
Peter. Coupe de cheveux que son fiston.
Ah non, il est beaucoup plus conventionnel, et pour le faire rire, bon, c'est vrai que la situation n'était pas la plus humoristique possible. Mais effectivement, on est dans un tout petit monde ici, sur la ligne d'arrivée, entre Initié et Lubomir Sagan attend probablement de ramener un bouquet en Slovaquie à la maman de Peter Sagan, parce qu'aujourd'hui effectivement le champion du monde a toutes ses chances, tout comme les punchers. Aujourd'hui on parlait des équipes de favoris qui sont à l'avant de la course. On a aperçu, outre Direct Energy qui truste les premières places du peloton en ce moment, la formation kazakh Astana pour Fabio Aru et plus probablement Vincenzo Nibali, car le final aujourd'hui, on en reparlera de ce final, on est à 34 km de l'arrivée, pourrait convenir au récent vainqueur du Giro, vainqueur du Tour d'Espagne et du Tour de France par le passé également. Les Movistar sont en train d'arriver avec Valverde qui a tout à gagner et surtout Nairo Quintana qui n'a rien à perdre aujourd'hui. Il faudrait pas qu'il prenne de cassure, le grimpeur colombien. Tout le monde est en train de remonter aux avant-postes, ça y est, la course s'est lancé, on est à 33 km de l'arrivée, et ceux qui sont en deuxième moitié du peloton en ce moment auront bien du mal à revenir sans lâcher d'énergie. On aperçoit les treks de Fabian Cancellara, mais aussi et surtout les Giant Alpecin de Warren Barguil et de John Degenkolb. Est-ce que Degenkolb, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix, va trouver ici en haut de la côte de la Glacerie un terrain d'expression idéal? On va voir ça. Samuel Dumoulin, le petit format de l'équipe AG2R La Mondiale, remonte également. Les Tinkoff remontent Alberto Contador. Tout le monde est aux avant-postes et on aperçoit, tiens, le champion de Norvège, Edvald Boasson-Hagen, coéquipier du maillot jaune, Mark Cavendish. Et si la formation sud-africaine Diamond Shundata nous faisait la passe de deux aujourd'hui?
Eh oui, pourquoi pas, après la magnifique victoire de Mark Cavendish, qui, on le rappelle, porte aujourd'hui, Cyril Guimard, pour la première fois de sa carrière, le maillot jaune sur les routes du Tour de France. Il était temps, à plus de 30 ans, de s'y mettre. Et ben voilà, c'est fait. Et évidemment, ça change la vie, quand on a la vie en jaune comme ça sur le Tour de France. Tout le monde vous reconnaît. Tu as eu cet honneur, Cyril, il y a de cela quelques années, le maillot est toujours jaune, on l'a vu l'année dernière, mais c'est un grand moment pour un coureur cycliste.
Ah ben c'est le rêve de tout coureur cycliste, lorsque vous débutez le cyclisme, si vous avez la chance de faire partie des meilleurs régionaux, vous rêvez du Tour de France. Alors rêver du Tour de France, c'est bien, mais vous avez un rêve encore plus important,
Cyril,
plus
Cyril,
fort.
Je vais être obligé de te couper parce qu'il y a une balle de match à Wimbledon. Et elle est malheureusement pour John Isner, Eric Salio.
Absolument. 16-15 Isner, 30-40 sur le service de Joe Wilfried Tsonga. Il y a eu un échange absolument fantastique. Ils étaient tous les deux à la volée. Et c'est malheureusement Joe qui a commis la faute en mettant une volée de revers un peu acrobatique dans le couloir. Donc attention, 16-15 Isner, 30-40. Joe qui demande au public il a besoin de calme, il a besoin de concentration, évidemment, après cet échange qui était très spectaculaire. Mais là, c'est la balle de match qu'il faut sauver, absolument. 16-15, 30-40, balle de match. La numéro 1 pour John Isner, l'Américain, qui va peut-être décrocher donc sa qualif. La première est dedans, mais elle est lette. C'est dommage, c'était un service que John Isner n'avait pas touché. Donc on va retenter sa chance côté français. Donc il sert à gauche, pour que vous visualisiez bien. 30-40. Allez, il faut une première là. Tenter l'ace, tenter de monter sur le revers. Ah oui, bonne première. Le retour est dedans, mais il va conclure, Joe. Oui, tranquillement. Bien sauvé. 40A, un coup droit gagnant. Ouf, on respire. 16-15, Isner, 40A.
Ah, il faut pas craquer, Joe. Ah, il faut surtout pas craquer face à John Isner. Mais le problème, c'est qu'il faut lui prendre son service pour remporter remporter ce match et se qualifier pour la suite de la compétition. On rappelle que le vainqueur de ce match rencontrera Richard Gasquet au prochain tour, Eric, hein, c'est ça?
Demain,
hein,
absolument, demain.
Exactement, demain. Donc voilà, il reste peu de temps pour récupérer. Ça va être compliqué. 31 km de l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France. Tiens, vous allez nous donner un nom pour l'étape du jour. Quel nom pour cet épisode? Je ne sais pas si vous avez réfléchi, messieurs de l'Intégral Tour. Oui, monsieur Fred, allez, vous allez commencer, Fred.
Bon, un titre générique. Je n'ai pas forcément travaillé le dossier, mais aujourd'hui, à coup sûr, et puisque le maillot jaune devrait changer d'épaule, ce sera un coup de chaud à la glacerie pour Mark Cavendish.
Très bien, très très bien, coup de chaud vraiment. Tu crois vraiment qu'on va avoir chaud ici aujourd'hui?
Chaud dans les cœurs.
Chaud dans les cœurs, évidemment. Jérôme, je sais pas, t'as trouvé quelque chose? Non, t'as pas. Non,
ça m'a pas trop inspiré. Ça
pas, non, t'es pas inspiré par l'étape, mais c'est le temps. C'est le temps normand.
Je suis inspiré par l'étape, mais pas par le titre. J'hésite parce qu'il y a beaucoup de titres possibles et l'arrivée est tellement indécise. Le favori du jour est tellement. Il y a tellement de favoris pour aujourd'hui, ça va être compliqué de donner un nom.
Je sais pas si le druide a trouvé quelque chose pour aujourd'hui, Cyril.
Bien oui, pourquoi je n'aurais rien trouvé?
Je ne sais pas. Je vous pose.
C'est pas parce que je suis là-bas perché dans mon arbre. Non, alors j'ai trouvé un titre pour cette étape, c'est Allez le coq.
Allez le coq.
Eh bien oui, vous avez le coq qui va essayer de gagner l'étape aujourd'hui. Et puis vous avez tous les coqs là-bas qui vont essayer de se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Europe.
Pour la demi-finale de l'Euro, évidemment.
Oui. Allez les coqs,
voilà. Allez les coqs.
Allez les coqs.
Pour tout vous dire, j'avais hésité avec le titre Allez les bleus, je trouvais pas ça à la hauteur, mais Allez les coqs, c'était pas mal.
C'est bien, c'est bien.
Oui, c'est pas mal. Comme ça englobe
parce
à la fois le vélo et le football.
On a Coquart aujourd'hui, mais on a aussi Galopin, Alaphilippe et d'autres.
Et il y en a d'autres, évidemment.
Espérons que nos joueurs ne seront pas, et joueurs français bien sûr, ne seront pas des petits galopins ce soir.
Voilà. Oh là là, mais il est en verbe ce soir, cet après-midi, notre druide. Je sais pas si Georges sur la moto a réfléchi à quelque chose, il a beaucoup de choses penser à beaucoup de choses quand on est sur la moto. Donc a-t-il trouvé un nom pour l'épisode du jour, Georges?
Peut-être un jaune arc-en-ciel, un arc-en-ciel qui voit jaune, je sais pas, mais quelque chose avec Peter Sagan et son maillot de champion du monde qui pourrait être en maillot jaune ce soir par exemple.
Sait-on jamais, effectivement.
Ça gagne de toutes les couleurs dans ces gars-là.
Ça gagne, oui, parce qu'il y a pas de, oui, il y a déjà un peu de jaune quand même dans le maillot arc-en-ciel.
Il y a toutes les couleurs.
Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Très bien. Allez, Fred, c'est à toi de travailler puisqu'il est 16h39, vous êtes sur RMC et c'est l'heure du top course.
RMC, top course.
Il reste 29 km à parcourir et la course, la deuxième étape de ce Tour de France est en train de rentrer dans son money time. Quatre coureurs à l'avant de l'étape. Paul Voss, l'allemand, et Cesare Benedetti, l'italien, deux coéquipiers de la formation allemande Bora, accompagnés du très talentueux belge Jasper Stuyven, le belge de l'équipe Trek, vainqueur de Kurn-Bruxelles-Kurn en début d'année, d'une étape de la Vuelta l'an passé. Attention à lui, ils sont accompagnés, ces trois-là, du norvégien Vegard Brain, coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept. L'avance de ces quatre hommes de tête est en train de fondre sous l'impulsion des équipes de favoris pour la victoire d'étape. Une étape qui se jouera au punch en haut de la côte de la Glacerie ici à Cherbourg. 28 km à parcourir, crevaison à l'instant d'un prétendant, peut-être d'un outsider en tout cas au classement général. Il s'agit d'un coéquipier de Christopher Froome chez Sky, c'est Geraint Thomas. Sachez qu'à l'avant du peloton, tous les favoris pour la victoire d'étape et les prétendants au classement général sont en train de se positionner à l'avant. Un homme qui vient de mettre le nez à la fenêtre s'appelle Tony Galopin, on en parlait. Visage particulièrement serein pour le français de la formation belge Lotto Soudal. Les Direct Energy, les Astana ainsi que les BMC occupent les premières places du peloton.
Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose?
Je suis l'œil sur le chrono, Christophe, et je regarde l'écart qui ne baisse pas si vite que ça. J'ai fait la reconnaissance ce matin des 25 derniers kilomètres. Je peux vous dire que de 20 km à 10 km de l'arrivée, c'est un long faux plat descendant. On ne va pas gagner une minute dans cette descente. Attention à ne pas rester là et de laisser les 7 échappés prendre trop de temps.
Eh oui, 3 minutes 42 encore à 27 km de l'arrivée. Le suspense est entier. Les 4 hommes vont-ils résister au retour du peloton ou alors les gros bagarreurs et les grands favoris de cette étape vont-ils s'imposer tout à l'heure? Réponse dans un peu moins d'une heure maintenant. On va se quitter quelques instants et revenir rapidement sur la roue du tour pour la fin de cette deuxième étape. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Les 25 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour de France, l'avance qui continue de descendre, mais enfin ça descend tout doucement seulement. 3 minutes 30 d'avance encore pour les 4 hommes de tête. On va faire un point complet dans un instant. Auparavant, nous repartons pour l'Euro, évidemment, à quelques heures maintenant du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Islande, quart de finale de l'Euro 2016, qui affrontera l'Allemagne dans milieu de semaine en demi-finale. Eh bien, on le saura tout à l'heure. C'est vrai que toute la France espère que nos Bleus vont passer, mais là-bas, dans une petite île perdue dans l'Atlantique Nord, tout un pays est paralysé dans l'attente des résultats de ces héros. Maureen Le Houx, qui sera avec nous sur le Tour de France dans quelques jours en Andorre, pour l'instant est en Islande. Elle va changer de garde-robe évidemment avant de nous rejoindre en Andorre dans quelques jours. Comment ça se passe? Salut Maureen.
Salut Christophe, effectivement je changerai de garde-robe, mais c'est très joli à vivre ici en Islande. Les rues qui commencent à se remplir, il y a beaucoup de touristes, mais les supporters irlandais, on en a croisé quelques-uns là aux terrasses qui nous disent on arrivera un peu tard mais on sera bien là, vous en faites pas. L'ambiance qui monte tout doucement, 15 000 personnes sont attendues sur la fan zone dans le centre de Reykjavik. Il n'y aura plus personne dans les rues, les bars seront bondés, les magasins ferment exceptionnellement plus tôt. C'est tout un pays effectivement qui ça va s'arrêter de vivre pendant 2 heures, tout le monde devant son écran. Un joli spectacle nous attend ici.
Ah bah oui, j'imagine. En plus, l'Islande, comme ça, début du mois de juillet, il fait jour toute la nuit. La nuit va être très longue pour Maureen. Mais bon, on va quand même un peu les calmer, les Islandais. Hein. On va quand même les calmer, ces Islandais. On les aime bien. Ils nous ont fait rêver jusque-là. Mais maintenant, il faudrait que ça s'arrête, l'histoire. Hein. Merci Maureen. À tout à l'heure, évidemment.
Salut,
pendant l'intégrale Euro 2016, puisque vous le savez, à partir des 18h, nous rentrerons en avant-match. Le coup d'envoi au Stade de France, 21h. À suivre, évidemment, avec les commentaires enflammés de Jeannot Rességuier. 24 km 600 de l'arrivée de cette deuxième étape à Cherbourg. Il ne pleut pas, il ne pleut plus sur la route du Tour. Voilà enfin une bonne nouvelle, mais une moins bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient misé et coché cette étape sur leur petit calepin, c'est que pour l'instant, eh bien, l'avance continue d'être conséquente pour non plus les 4 hommes de tête, mais les 3 hommes de tête, Fred.
Oui, ils ne sont plus que 3. L'Italien Benedetti de l'équipe Bora est passé par la fenêtre. Paul Voss, l'Allemand, son coéquipier au sein de cette formation allemande, est toujours là en compagnie du Norvégien Vegard Bre de l'équipe Fortuneo et, attention à lui, du jeune Belge Jasper Stuyven, 24 ans, coureur de l'équipe américaine Trek, qui a déjà remporté une étape sur un grand tour, c'était l'an passé sur le Tour d'Espagne, et qui a confirmé en remportant Kurn-Bruxelles-Kurn en début d'année. Attention à lui, il a l'air particulièrement à l'aise à 24 km de l'arrivée, 3 minutes 27 secondes d'avance pour ce trio de tête. Ils ont du mal à reprendre quoi que ce soit, les équipes de favoris pour la victoire d'étape.
Ils ne reprennent rien du tout, mais Jo-Wilfried Tsonga, lui, prend une balle de break face à John Isner. Il faut en profiter, elles sont peu nombreuses, Eric.
Ah ouais, elles seront peu nombreuses, 17 partout. Avantage de Tsonga sur la mise en jeu de John Isner. C'est une occasion en or massif pour le Manso. Maintenant, si la première passe, ça va être compliqué, la première passe, mais le retour est dedans. C'est une balle facile. Il la sort, Isner sort son coup droit. Break pour le Français, 18-17. Il va servir pour le match dans 1 minute 30. Oh, quelle erreur de John Isner. C'était un coup droit penalty. Il a voulu prendre la ligne et il l'a sorti de 30 cm dans le couloir. Donc Tsonga va servir pour le match.
Et ben voilà une bonne nouvelle. Et on revient vers toi dans quelques instants pour, on l'espère, la victoire de Jo-Wilfried Tsonga. Combien on en est à 18-17, c'est ça?
Oui. C'est ça, oui. 18-17, 4h20 de match.
Oh, incroyable. Incroyable le match à Wimbledon. Il n'y a qu'à Wimbledon qu'on voit ce genre de confrontation. Jérôme Pinault, Cyril Guimard, Georges Quirino, Fred Adam sont à mes côtés pour vous faire vivre le final de cette étape. 23 km encore à parcourir et toujours 3 minutes 20 d'avance. Jérôme, ça a du mal à s'organiser en tête de peloton et ça a du mal à reprendre du temps aux hommes de tête. Hein.
Exactement, on a du mal à s'organiser. On s'organise par équipe mais on ne s'entend pas parmi les équipes des favoris du jour, et ce qui fait que la chasse n'est pas tout à fait lancée. On se regarde encore et les 3 hommes de tête qui étaient 4 il y a quelques instants, mais tout simplement continue leur bonhomme de chemin. Alors Jasper Stuyven leur fait beaucoup mal, leur fait très très mal aux jambes. On voit que Paul Voss est parfois en difficulté, mais attention parce qu'on va arriver sur une longue partie sur un faux plat descendant, et en faux plat descendant on va pas reprendre 3 minutes à ces 3 hommes de tête.
Et s'il réussissait l'incroyable exploit de terminer devant le peloton, c'est rare hein, lors d'une deuxième étape du Tour de France. Tiens, on va repartir justement à l'avant de la course avec la moto RMC. Georges Quirino au contact des hommes de tête. Georges.
Contacte les hommes de tête, effectivement, qui ne sont plus que trois depuis quelques minutes, avec Cesare Benedetti, l'Italien, qui a été lâché là et qui est ravitaillé par son équipe. Je pense qu'on est même surpris hein, du côté des directeurs sportifs qui suivent à l'avant de la course. On a vu une discussion il y a quelques instants entre Alain Galopin, le directeur sportif de la formation Trek, qui suit le Belge Stuyven, et Roger Tréhin, le Français de l'équipe Fortuneo, qui suit le Norvégien Brin, qui est dans cette échappée. On a beaucoup parlé entre les deux directeurs sportifs, et bien pour voir certainement, pour parler de l'évolution de cette échappée qui arrive pour l'instant à maintenir cette avance avec le peloton. Et on voit que le maillot à poids, notamment de Paul Vos, le coureur de l'équipe Bora-Argonne, fait des très gros relais pour emmener ce groupe de tête, alors qu'il fait de plus en plus froid ici sur la route du Tour.
Ok, 3 minutes 13, ça continue de résister, Cyril. Et là, on se demande vraiment s'ils vont pas aller au bout, parce que le final de l'étape est assez tortueux, et pour un peloton, c'est plus compliqué que lors des longs bouts droits hein, dans ce final.
Oui, il y a une partie de poker menteur, parce que effectivement, les équipes sont bien organisées dans leur train, mais il n'y a pas un train collectif, ce qui fait que la poursuite manque d'efficacité. Et en fait, on n'a pas perdu énormément de temps depuis le 30e kilomètre. J'ai presque envie de dire même pas une minute. Et ça va commencer à chauffer pour le peloton, parce que effectivement, Stuyven, ouais, c'est un spécialiste des finales de course où il est capable de sortir à 4 ou 5 kilomètres de l'arrivée et d'aller gagner. C'est ce qu'il avait fait à Bruxelles-Kuurne cette année. Donc il y a danger pour ceux qui veulent gagner l'étape aujourd'hui. Ouais. 3 minutes à 20 km de l'arrivée, c'est jouable
pour les trois hommes de tête, c'est jouable également pour Joe Wilfried Tsonga.
Balle de match pour le Français, Christophe. Effectivement, il n'y aura pas de suspense pour 18-17-40-0. Le Français a assommé John Isner en le breakant il y a quelques minutes, et là il est d'une sérénité à toute épreuve. Il a commencé par deux aces, un petit service slicé, 40-0. Ça va être la délivrance pour Joe Wilfried Tsonga dans quelques secondes, je pense. Et puis on aura une pensée pour Nicolas Mahut, qui doit se mettre à la place du Français. Et bien la roue tourne, première balle de match filée. 18-17, 40-0. On rappelle que le vainqueur de ce match donc affrontera demain Richard Gasquet, ce qui voudrait dire qu'il y aurait au moins un Français en quart de finale de ce Wimbledon. Deuxième balle de service filée. Aïe aïe aïe. Il a voulu tenter la grosse deuxième, s'est arrêté par le filet, donc double faute. 45, encore deux occasions. Faut pas se crisper, Joe. Il faut y aller tranquillement, sereinement. Il a encore deux cartouches pour battre John Isner au terme d'un combat insensé. Rappelons que Joe était mené 2-7-0. Donc en plus, il y a la fameuse Raymond Tada, remonté de 2-7 à 0 face à un champion comme Isner. C'est une vraie perf. 45-18-17, deuxième balle de match pour Joe Wilfried Tsonga. La première est dedans. Bon retour avec son coup droit, il monte au filet, le passing est bon, volé amorti, John Isner y arrive ou pas, et oui, Joe qui conclut et qui exulte, il bat John Isner 18-17 dans ce cinquième set de pure folie sur le cours numéro 2. Isner battu, ça lui rappelle peut-être le scénario inverse de 2010 face à Nicolas Mahut. Cette fois-ci c'est Joe qui remporte ce marathon 19-17. Le Français est en huitième de finale, il exulte sur le cours numéro 2, et c'est Richard Gasquet contre Joe qu'on aura demain à Wimbledon en huitième de finale, avec Lucas Pouille, Bernard Tomic et Sam Querrey contre Nico Mahut. 4 Français en huitième, c'est un record de l'ère Open, ça égale aussi le record de 1929.
Eh ben oui, c'est rare, mais c'est vrai que nos Français brillent souvent beaucoup plus à Wimbledon qu'ils ne le font à Roland-Garros. On aurait dû construire des cours en gazon à Roland-Garros plutôt que de la terre battue. Merci Eric, on suivra évidemment ce quart de finale, notamment entre Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga demain. Georges Quirino sur la moto, qui est au contact d'un directeur sportif à l'avant de la course.
Oui, on va se rapprocher de la voiture Trek de Alain Galopin, qui suit Jesper Stuyven, le Belge dans cette échappée. Bonjour Alain, est-ce que je peux prendre le micro s'il te plaît? Alain, sinon ça va être un peu compliqué. Bon, c'est jouable là pour l'échappée.
C'est jouable. J'ai dit depuis le départ, ça dépend de ce qui se passe derrière. Mais pour l'instant là, les trois vont à fond et puis on va voir. Il n'y a pas à discuter maintenant, il faut penser.
Vous êtes surpris du comportement du peloton là?
Non, c'est une journée où les équipes de sprinters ne savent pas trop ce qu'ils font, donc il y a une arrivée un peu spéciale, c'est pas sur le plat, donc ça peut jouer, ça dépend des ambitions de certains. En plus, le grand favori c'est Sagan, et Contador est tombé, donc ça peut jouer aussi. Donc c'est comme ça, c'est la course.
Et j'espère, Stevens, qui est dans cette échappée, votre coureur a... est un des hommes forts, on a envie de dire, de cette échappée. Il a l'expérience déjà de victoire dans les grands tours.
Oui, 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 non, non, il est ambitieux, il est fort, on va voir. Attendons de voir encore. Il y a encore un petit... La fin est difficile, donc il y a 3 km de montée, il ne faut pas l'oublier.
Eh bien, on vous laisse avec la carte. On voit qu'il a le roadbook juste devant lui. Alain Galopin en train d'étudier tout ce final, parce que tout pourrait se jouer à la seconde peut-être pour l'échappée. Donc c'était Alain Galopin, directeur sportif de l'équipe Trek, qui suit Jesper Stuyvesant, le Belge, dans cette échappée.
Merci Georges. Donc on commence vraiment à y croire, puisqu'il y reste encore 2 minutes 57 d'avance. On va faire un top course complet avant Fred, avec Fred avant de rendre l'antenne pour les infos. Fred, le top course.
17 km 500 de l'arrivée avant le final ici à Cherbourg, au sommet de la côte de la Glacerie, classé en troisième catégorie. 2 km d'ascension. On attendait un puncher, ce sera peut-être un baroudeur qui s'imposera ici au terme de cette deuxième étape. Ils sont trois à l'avant à 17 km de l'arrivée, avec 3 minutes d'avance. Écart stabilisé, l'Allemand Paul Voss de l'équipe Bora, le Belge Jasper Stuyven de la formation américaine Trek, et un Norvégien Vegard Brenn de la formation bretonne Fortuneo. Écart stabilisé, les équipes de favoris ne reprennent rien sur de longs faux plats descendants tout droit. Ce n'est pas là-dessus qu'on reviendra sur les hommes de tête. Moins de 17 km à parcourir et 3 minutes d'avance pour le trio de tête.
Voilà, 3 minutes d'avance, Jérôme, c'est quasiment cuit pour tous ceux qui avaient coché cette étape sur leur petit calepin. On voit pas comment ils pourraient reprendre 3 minutes dans ces 16 derniers kilomètres.
Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. On va rouler à 60-65 km/h pour les échapper. Ça veut dire que le peloton doit rouler à plus de 70 km/h pour rentrer. Certes, le final est compliqué, certes, le final est un peu technique, mais pour moi, ces trois hommes de tête ont grande chance d'aller chercher le bouquet en haut de la Glacerie. En revanche, il va falloir beaucoup d'énergie pour l'un de ces trois garçons pour monter jusque là-haut. Mais 3 minutes d'avance, ils ont vraiment de grandes chances de remporter l'étape aujourd'hui.
Oui, Fred, c'est assez rare que lors d'une deuxième étape du Tour de France, une échappée comme ça arrive au bout. Il y a souvent des échappées qui arrivent au bout, mais en deuxième ou troisième semaine de Tour de France, là... piéger comme ça les sprinteurs ou tous ceux qui avaient vraiment de grosses ambitions sur cette étape, c'est assez rare de le faire aussi rapidement dans la grande boucle.
Oui, surtout par les temps qui courent. On est entré dans une ère du cyclisme mondial très calculée, très mathématisée, avec des grosses équipes qui sont capables de jouer au chat et à la souris jusqu'aux derniers hectomètres pour rebecter, comme disent les coureurs cyclistes, rebecter les coureurs dans les derniers hectomètres des étapes. Tout est minuté, tout est calculé. Et bien peut-être que le peloton cette fois a été piégé. N'allons pas trop vite en besogne toutefois. Il reste un peu plus de 15 km à parcourir. L'écart qui vient de descendre sous les 2 minutes 50. Le final de cette deuxième étape s'annonce palpitant.
Exactement, et on va vivre évidemment le suspense et le final de cette deuxième étape dans quelques instants. Ce sera juste après les infos de 17h sur RMC. 15 km encore à parcourir avant l'arrivée à Cherbourg et cette côte de la Glacerie, est désormais 2 minutes 46 d'avance pour les trois hommes de tête. À tout à l'heure, juste après les infos, pour le final.
Sur la route du Tour de France, avec Bosch Car Service, réseau de réparation et entretien auto multimarque.
RMC, Intégral Tour.